Et bienvenue dans Route 66, ce radio show voué, tout comme nos frêles existences, aux musiques roots américaines, celles que l'on pourrait se contenter d'entendre sans vraiment les écouter, à l'instar de relations que l'on croyait solidement figées dans le béton et qui pourtant d'un jour à l'autre se mettent à glisser sans prévenir de ce fin cordon translucide qui nous sert de guide et de vie. Précipité dans un abîme de doute et de solitude, c'est elle un clochard céleste sorti tout droit d'un roman de Jack Kerouac que l'on décide de marcher le long de la route ou de l'emprunter à bord du premier véhicule venu. C'est souvent dans ces moments que la musique revient vers vous tel un boomerang et vous accompagne tout au long de ces kilomètres et de ces nuits interminables. Des situations qui ont peut-être inspiré le grand songwriter américain Jimmy Webb. Ce dernier signe son retour discographique avec un album enregistré avec l'étroite complicité de ses fils, les Webb Brothers, et de son père, le vieux Bob. Dans ce CD nommé Cottonwood Farm, Jimmy Webb n'hésite pas à reprendre aux côtés de sa descendance un titre qu'il avait à l'origine concocté pour un quatuor devenu légendaire et qui était composé de Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings et Chris Christopherson. Une chanson devenue incontournable et qui s'appelle Highwayman, l'homme de la route, celui à travers lequel on se reconnaît tous lorsqu'au crépuscule, seul face à un désert aride, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'un souffle chaud nous glisse à l'oreille quelques notes toutes droit sorties des tuyaux d'un grand orgue d'église.
Many a young maid lost her bowels to my trade. Many a soldier left his life's blood on my plate. Bastards hung me in the spring of 25. I am still alive. Back.
Route 66 Radio RDL. Route 66 Radio RDL. That's where I hear my blues and it sure sounds swell. I don't take Highway 41. I don't take Highway 69. I take Route 66 because it's sure enough fine. Turn on your radio. You will like it too. RDL, that's the station for you. This is Mighty Mo Rider saying, listen and learn.
Bonjour.
It's just the same, and we all caught up in the game. Paris and London and LA too. Wherever you go, you're gonna hear some blues. Blues, blues make the world go round, go round. Gravity may hold you down. The same, and we all caught up in the game. Blow your horn.
Au cours de l'été 1973, le grand Howlin' Wolf entrait dans les studios Chess de Chicago afin d'y enregistrer son testament musical, The Backdoor Wolf. En bonne place sur l'album figurait une composition intitulée Coon on the Moon, qui se concluait de façon prophétique. Je me permets de vous traduire ces quelques vers. On nous traite de bamboula, on dit qu'on est des imbéciles, mais vous allez vous réveiller un matin et vous aurez un bamboula comme président. On va sur la lune aujourd'hui, vous vous réveillerez un beau matin et vous trouverez un bamboula sur la lune. Au lendemain de l'élection de Barack Obama à la Maison Blanche, Mighty Mo Rogers a décidé brusquement de prendre Wolf au pied de la lettre et s'est envolé en direction de la lune, sûr de disposer du poste d'observation rêvé pour établir un diagnostic fiable sur l'état de notre planète. Il en résulte un magnifique album qui vient de sortir sur le label Dixie Frog et qui s'appelle Dispatches from the Moon, Monsieur Mighty Mo Rogers, dont nous venons d'entendre un premier extrait qui s'appelle Blues Makes the World Go Round. Changement de style tout de suite et venons-en au sujet principal de notre émission, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Hugo Frey sort ces jours-ci un nouvel album dédié à son ami et idole Bob Dylan. Ce disque se nomme New Yorker et a été enregistré avec l'étroite collaboration d'anciens musiciens de Dylan et d'invités prestigieux pour une douzaine de duos qui constituent la plus grande partie de cet opus. Hugues m'a accordé une longue interview de plus de 2 heures chez lui à Marne-la-Coquette avant l'été dernier. Il me sera malheureusement impossible d'en passer l'intégralité à l'antenne, mais vous pouvez d'ores et déjà en retrouver la transcription intégrale, cette fois-ci, sur notre site sur la route66.free.fr. La semaine prochaine dans Route 66, Hugo Frey vous parlera de cet album, mais j'ai décidé de sélectionner pour aujourd'hui quelques extraits de cet entretien durant lesquels Hugues revient sur sa rencontre avec Bob Dylan. 40 minutes exceptionnelles agrémentées de quelques chansons qui le sont tout autant, comme cette adaptation de The Girl from North Country en La Fille du Nord, dont je vous propose immédiatement la première version d'Hugo Frey, enregistrée en 1965 sur l'album Au Frey chante Dylan. Et juste après, nous commencerons à vous diffuser des premiers extraits de cette interview.
Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. Si tu croises les troupeaux de rennes vers la rivière à l'été finissant, assure-toi qu'un bon châle de laine la protège du froid et du vent. A-t-elle encore ses blancs cheveux si longs qui dansait jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? C'est ainsi que je l'aimais bien. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours. Dans la lumière des nuits de l'été. Et dans le froid du petit jour. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour.
Alors nous allons faire un petit flashback, hein, puisque vous êtes considéré comme le plus digne représentant de la musique folk en France. C'est un style que vous avez découvert, je crois, au début des années 60, à New York. Alors est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les circonstances de cette rencontre avec ce style en particulier?
Alors le plus digne, je ne reprendrai pas ce terme, parce que le plus digne, ça ne, non, c'est pas ça que je... Ma modestie souffre trop de ça. Le premier, voilà, c'est-à-dire que, effectivement, le hasard... qui n'est pas un hasard, comme chacun sait, a fait que je me suis trouvé à New York en 61 exactement, au moment où apparaissait celui qui allait devenir le leader mondial, et qui l'est toujours d'ailleurs, du folk song et du folk rock. J'ai nommé Bob Dylan. Je vais voir Bob Dylan pour la première fois en 61 au Gardis Folk City. Je reviendrai à New York en 62. Où je vais rester 6 mois en compagnie de Peter, Paul et Mary, qui, eux, démarraient et n'étaient pas encore connus mondialement, mais vont exploser, si je puis m'exprimer ainsi. Leur succès va les conduire en tête des parades avec une chanson de Bob Dylan qui est « Blowing in the Wind ». Je vais ramener des États-Unis de cette expérience la décision de faire de la musique apparentée à la musique folk. Et je trouve enfin mon chemin, simplement pour vous dire que, étant devenu chanteur professionnel, c'est-à-dire faisant des disques, ayant le statut professionnel, tout à fait par hasard, sans l'avoir recherché, dès 1959, où j'avais fait mon premier disque, j'ai compris que j'étais pas tout à fait fait pour ce métier, parce que je ne me sentais pas heureux dans ce qui me paraissait être la musique qu'on attendait de moi, c'est-à-dire la chanson, j'allais dire, franco-française. Je me reconnaissais pas dans cette musique, que je ne méprise pas, mais je me reconnaissais pas. J'avais une formation de folklore par l'Espagne, où j'avais vécu 3 années. Et c'est donc tout d'un coup, 59, 60, 61, 3 ans après mon premier disque, que je vais dire, voilà la musique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse quoi ? D'intégrer cette façon de chanter, cette façon de jouer de la guitare, de la jouer de la musique, d'écrire des chansons, à la manière de ces gens-là. Je revendique d'être le pionnier de cette catégorie de musique, mais également le colporteur, parce que c'est un travail de transport. Ça va être aussi de transport, de transmission, de transposition, puisque je vais transposer à ma façon, en prenant aussi bien des musiques sud-américaines que... déjà une forme d'intermondialisme, une façon également de mondialisation de la chanson. On parle maintenant de, comme, je ne sais plus quel est le terme. Il y a un terme pour dire oui. Oui, enfin bien, bref, vous m'avez compris. Il s'agissait donc de métisser la chanson française, d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, pour les uns, pour ceux qui étaient ouverts, c'était effectivement une ouverture intéressante, un rajeunissement de la chanson française, métissage culturel. Et pour ceux qui sont négatifs, c'était Hugo Frey n'est qu'un simple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, adaptateur, voilà, un copieur, voilà, un type qui fait du... Voilà, et donc c'est effectivement le choc que j'ai éprouvé en allant à New York en 61 et en découvrant tous les groupes de le Kingston Trio, les Brothers Four, Peter Paul and Mary, Pete Seeger avec les Weavers, enfin toute cette génération. C'est ça que je vais ramener en France et qui va marquer ma carrière.
Je crois que c'est justement Peter, Paul et Marie qui vous ont permis de rencontrer Bob Dylan pour la première fois. Est-ce vrai ? Et est-ce que cette première rencontre a accentué en fait le respect que vous lui portiez artistiquement au niveau de la personnalité du bonhomme ?
Je reviens un petit peu sur mon passé parce que quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 17-18 ans, après mon baccalauréat, j'arrivais de Madrid où j'avais passé 3 années avec mon père. Mon père étant divorcé, m'a remarié avec une Espagnole. J'avais une culture musicale qui était classique. J'allais au concert classique. Ma passion, c'était la musique romantique, c'était Wagner, c'était Rachmaninov, c'était Ravel, c'était... Voilà. Je ne connaissais pas du tout la musique de variété. Les chansons, je connaissais pas du tout. En Espagne, j'écoutais beaucoup de la chanson andalouse, du flamenco et puis de les différents... les différents folklores de Galice, d'Asturie, etc. Et par l'espagnol, j'avais aussi traversé l'Atlantique avec la musique mexicaine, vénézuélienne. Donc pas du tout de racines, de culture de variété ou de jazz. J'aimais beaucoup le jazz, si j'aimais le jazz, mais enfin, c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, quand je vais arriver à New York, amené par Maurice Chevalier, je vais être engagé par la suite dans un club qui s'appelle le Blue Angel, où il y avait trois débutants, Peter, Paul et Marie. C'est eux qui vont me permettre de découvrir Dylan avec sa chanson Blowing in the Wind. Et c'est par eux, par la suite, qu'effectivement Bob Dylan va venir chez moi en 1963, à Paris, me rendre visite, parce que j'avais exprimé le désir de traduire ses chansons en français. Et ça l'avait d'autant plus étonné qu'il était totalement inconnu aux États-Unis. Donc, quand Bob Dylan me présente à ses amis, il me présente comme étant un des découvreurs de Dylan, presque avant les Américains, quoi. Parce que les Américains voyaient en Dylan un auteur, compositeur, mais ils ne voyaient pas un interprète. Et moi, j'ai vu un interprète qui allait devenir une star mondiale. Dès 62, ça, je l'ai vu.
Où que vous soyez, accourez, braves gens, l'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt, vous serez submergés, et que si vous valez la peine d'être sauvé, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde, il est en change. Et vos gens de lettres dont la plume est d'or, ouvrez tout grand vos yeux, car il est temps encore. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde, il est en change. Messieurs les députés, écoutez maintenant. N'encombrez plus le hall de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés, car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer, car le monde, il est en change. Vous les pères et les mères de tous les pays, ne critiquez plus quand vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur vos routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde, il est en change. Et le sort et les dés maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé. Un peu plus chaque jour, l'ordre est bouleversé. Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver. Le premier d'aujourd'hui, demain sera dernier, car le monde, il est en change.
Puis voilà qu'en 61-62, quand j'entends Dylan et les Américains chanter, je me dis, il n'y a pas qu'une seule façon de chanter. Tout le monde n'est pas obligé de chanter comme Luis Mariano, avec une voix qui porte, etc. On peut chanter aussi avec le cœur. Donc, la façon dont chantait Bob Dylan a été déterminante pour moi. J'ai dit, oui, ben, puisqu'il peut le faire, moi, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Et j'étais loin de considérer que je chantais aussi bien que Bob Dylan, mais enfin, je chantais. Et voilà, c'est comme ça que je démarre dans ce métier. Donc, je peux dire que Bob Dylan, c'est-à-dire que le génie de Bob Dylan m'est apparu immédiatement, et le talent des autres est un cadeau du ciel. Moi, je me dis de temps en temps, quelle tristesse serait notre ma vie si je n'étais que si j'étais auteur-compositeur, interprète et à n'aimer que ce que je fais quoi. Je n'aime pas ce que je fais. Je suis très critique. Quand je dis que je n'aime pas, j'accepte, mais j'ai du mal à accepter. En revanche, quand j'entends Ray Charles, Bob Dylan, j'entends Frank Sinatra, j'entends La Calas, j'entends des gens qui ont énormément de talent, je dis merci mon Dieu et j'accepte de venir devant un micro parce que je suis quand même fondamentalement modeste, lucide et modeste. Donc voilà comment je commence à chanter, grâce à ces exemples de gens qui chantent avec des voix différentes de celles que nous avons souvent dans les variétés dans les années 50-60.
Et est-ce qu'après avoir découvert Bob Dylan, vous avez également cherché à en savoir plus concernant ses propres sources d'inspiration? Vous parliez de Pete Seeger que vous avez rencontré. Est-ce que des gens comme Odetta, c'est des gens qui vous ont intéressé également? Vous avez
cherché à découvrir? Ah oui, parce qu'en plus, Odetta, je l'ai rencontré à New York quand j'ai chanté au Blue Angel. Elle est venue, elle m'a écouté et elle est venue me féliciter à la fin. Woody Guthrie était déjà mort. Mais par la suite, j'ai acheté tous les disques de Woody Guthrie. J'ai commencé à écouter de la musique country. J'ai raté Jack Elliott et Daryl Adams, que j'aurais pu rencontrer dès 55. Malheureusement, je les ai ratés parce que je ne savais pas qui ils étaient. Mais je les ai entendus chanter, quoi. Et faut dire que Jack Elliott et Daryl Adams, c'est les deux, quand même, les deux premiers hippies mondiaux, je ne sais pas comment on dit. Parce que avant Jack Elliott, il y a Kerouac. Mais Kerouac, c'est pas un hippie. Hein, il a costume cravate, quoi.
C'était le beatnik qui était plus inspiré par le jazz, finalement, que vraiment par la musique folk aussi.
C'est même pas beatnik, c'est avant beatnik. Ouais. C'est avant. Je ne sais pas quel est le nom que les Américains donnent exactement. Mais Jack Elliott, c'est cheveux longs, c'est chapeau de cow-boy, Santiago, etc., blue jean, et ils chantaient je les avais entendus chanter à Paris quand ils chantaient dans la rue, hein. Jack Elliott avait une voix extrêmement timbrée, pointue, alors que la mienne était sourde. Et je ne m'étais pas rendu compte exactement de la valeur de cette musique, je ne m'en rendais pas compte. Mais parce qu'il faut quelquefois un certain temps pour comprendre les choses. C'est le privilège des gens qui ont un certain âge, c'est qu'ils ont eu le temps de se tromper, ils ont eu le temps de découvrir. Donc j'ai découvert Daryl Adams par la suite, parce qu'il a vécu longtemps en Belgique, et qu'il m'a accompagné, c'était un garçon merveilleux. Voilà, c'est toute cette ambiance va apparaître et va devenir le courant qui va révolutionner le monde de la chanson, parce que je vous dirais franchement que il y a des phénomènes stars mondiales comme Elvis Presley que je ne conteste pas et qui sont incontestables, mais je dirais que Elvis Presley, c'est un phénomène personnel, un individu, mais qui n'a pas marqué. Et son style n'a pas demeuré. Plus personne ne chante comme Elvis Presley aujourd'hui, sauf quelques nostalgiques qui font des imitations. En revanche, tout le monde chante comme Bob Dylan. Plus ou moins bien, mais je veux dire, il y a Bob Marley aussi, les deux Bob. Pour moi, c'est Bob Marley, Bob Dylan. Bob Marley va complètement dominer toute la musique de couleur, y compris le rap, qui est issu du reggae. Et Dylan va dominer tout ce qui est variété mondiale, quoi. Que vous allez au Brésil, en URSS, en Russie, les gens essayaient d'imiter Dylan. En Allemagne, partout. Alors le rock and roll, c'est quand même... Évidemment, il y a les Stones et puis il y a les Beatles, surtout. Pour moi, les Beatles, surtout. Parce que les Stones ne faisaient que reprendre un peu la façon dont les Noirs chantaient, quoi. Mais Dylan, lui, a réussi à créer un courant musical qui, issu de son observation auditive des gens comme Woody Guthrie, va faire qu'il ne chante pas comme un noir. Il chante le blues, très souvent, mais on ne peut jamais dire qu'il copie ou qu'il singe une façon de chanter de bluesman.
Comme j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Je voisine une espèce de ferme, je me dis je vais m'arrêter. J'ai dit hé hé là-dedans, y a-t-il quelqu'un de vivant? Je me sentais vraiment seul devant la maison. Quand soudain devant moi, un grand gaillard de fermier vient me braquer son canon à la hauteur du menton. Je tombais sur les genoux en criant mais vous êtes fous. Moi j'aime bien les fermiers, ne me tuez pas s'il vous plaît. Il s'en est fallu de rien qu'il ne me tire comme un lapin. C'est vous l'espèce de vagabond qui vient pour mendier. J'ai dit non, 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 je ne suis pas ce que vous croyez. En droit je suis licencié, j'ai fait l'université. Alors arriva la fille qui s'appelait Rita. Elle semblait tout droit sortie de la Dolce Vita. Et je me mis en devoir de la madouer comme son père. Je lui dis la jolie ferme que vous avez là. Dites-moi qu'est-ce qu'un étudiant connaît à l'agriculture. J'ai répondu brave Jean, je suis un puits de culture. Yeah. En voyant mes ongles salis, il sut que je travaillais. Il me dit d'un air futé, vous avez l'air fatigué. Oh oui, j'ai fait 800 bornes et j'en ai vraiment plein le dos. Il me jeta sur la paille avec les bestiaux. Tâchez de rester tranquille ou sinon moi je me fâche. Ne touchez pas à ma fille et demain pour traire les vaches. Bien. Je ne dormais que d'un œil quand Rita vint me secouer. Elle me faisait de l'œil comme Tony Perkins. Elle me dit viens prendre une douche, je vais te montrer où c'est. J'ai répondu hé hé hé. Là, on me l'a déjà fait. J'essayais de me défiler, je ne savais pas trop comment. Mais Rita insistait vraiment très très gentiment. Bien. Je ne pouvais plus mentir et j'avais l'air d'un lâche. J'aurais pas dû accepter d'aller demain traire les vaches. Pour sortir de cette histoire, fallait trouver un moyen. J'ai crié Fidel Castro, c'est un bon copain. Rita pas vu suffoquer, j'ai cru que c'était gagné. Quand le fermier soudain surgit en hurlant, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit vive Fidel Castro, vous m'avez compris. Il me tomba sur le dos à bras raccourcis. Rita parla de sa mère qui dormait au cimetière, tandis que le vieux me flanquait un coup dans le buffet. En enfer je t'expédie, si tu ne t'en vas pas tout de suite, espèce d'étudiant pourri, espèce de rat communiste. Yeah. Jeta à la tête un paquet de Reader Digest. Moi je fis une pirouette, le vieux prit son escopette. J'éclatais par la fenêtre à 180 à l'heure et j'atterris en tempête dans un pot de fleurs. Revenez crier Rita, le père chargeait son engin. Quand le soleil se leva, moi j'étais déjà très loin. Yeah. Même si Rita est partie, je ne reviendrai pas de sitôt. J'ai ce vieux fermier maudit, car j'ai trouvé un boulot. Mais la sacrée vieille canaille espère bien me faire cueillir un jour par son FBI, mais il peut courir. Je continue à penser envers et contre tout. Sans liberté de parler, on est moins que rien du tout. Yeah.
lorsque vous avez enregistré l'album Au Frichon de Dylan, est-ce que vous aviez un petit peu une ligne directrice en ce qui concerne votre travail d'adaptation de ces textes? Et est-ce que le fait de le connaître personnellement vous a un petit peu influé à ce niveau-là? Influencé, pardon.
C'est-à-dire, ce qui m'a influencé, c'est que quand j'ai entendu Dylan, j'ai dit, bon, ça c'est la musique que j'aime, je vais la faire connaître, la partager avec mes compatriotes, mes amis. Pour ça, comme ils ne parlent pas l'anglais, je vais traduire les chansons, et puis je vais les chanter. Exactement comme quand je suis arrivé d'Espagne, je chantais des chansons du folklore que je n'avais pas composées. Ce n'est que tardivement que je ai poussé par la faim, et il fallait que je gagne mieux ma vie parce que j'étais marié et j'avais deux enfants à charge avec ma femme, que j'ai commencé à chanter en français, parce que les directeurs de cabaret m'ont dit, ah, tu sais, ça serait mieux si tu chantais en français. Alors j'ai chanté du Félix Leclerc, du Brassens, du Francis Lemarque, des chansons de l'époque, mais je composais pas. Je voyais pas l'intérêt de composer. Je le vois toujours pas, d'ailleurs. Je pense que la seule chose intéressante pour moi, et volontairement pour choquer les gens, je veux dire que la première chose, c'est de gagner de l'argent. Parce que voyez-vous, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de vivre. Et j'écoutais une interview du plus grand écrivain, enfin pour moi qui est le plus grand écrivain de la littérature française du XXe siècle, Louis-Ferdinand Céline. Quand on lui demande pourquoi écrivez-vous, il dit parce que pour gagner ma vie. Parce que comme médecin des pauvres, je ne gagnais pas ma vie et j'arrivais pas à payer mon terme. C'était l'expression, j'arrivais pas à payer mon terme. Et il fallait que je m'achète un appartement, alors j'ai écrit un roman en me disant ça va peut-être me rapporter un peu d'argent. Et en effet, ça lui rapportait un peu d'argent. La deuxième chose, pour moi, alors là c'est plus noble peut-être, encore que moi je ne méprise pas l'argent, peut-être plus noble aussi, c'est de dire, ah ben on va partager quelque chose. Moi quand je vous chante une chanson que j'ai entendue en espagnol, une chanson chantée par un groupe vénézuélien, je la traduis parce que c'est ma façon de la faire connaître, quoi, de la transmettre. Donc le premier disque Hugo Frechon de Dylan, le terme a été pas très bien choisi, c'est moi qui l'ai pourtant choisi, mais 30 ans plus tard je vais me rattraper en faisant un autre disque qui s'appelle Trans Dylan, parce qu'en 30 ans j'ai compris qu'on ne traduit pas mais on transmet. Donc mon admiration pour l'auteur Bob Dylan, pour le genre de musique qu'il faisait et le genre de texte qu'il écrivait, a été évidemment le moteur. Et j'ai pioché dans les premières chansons qu'il avait enregistrées, celles qui précèdent l'électrification de Dylan, qui va arriver en 66. Moi, mon disque sort en 66, 65-66, et j'avais puisé les chansons d'avant, c'est-à-dire de 63. Et la raison pour laquelle je fais beaucoup plus tard un Trans Dylan, c'est parce que j'avais envie d'enregistrer les chansons électrifiées. Encore que dans Au Frichon de Dylan, j'ai quand même fait le Cauchemar psychomoteur, que j'ai électrifié.
Et justement, comment vous l'avez vécu, vous, son passage à l'électrique à Dylan? Puisque ça a été très controversé, vous en tant que grand amateur de folk, comment vous l'avez ressenti?
J'ai compris que la moitié des gens qui croyaient aimer Dylan n'avaient pas compris Dylan. Notamment Pete Seeger, qui était ce grand folkloriste et qui cherche une hache pour couper le câble de la guitare électrique de Dylan lors du festival de
Newport.
Et c'est bien pire que ça. Il n'y avait pas que la guitare électrique qu'il ne comprenait pas. Il ne va pas comprendre par la suite, lui et tant d'autres. Et il ne va pas comprendre l'évolution de la philosophie, si je peux, ou de la pensée de Dylan, qui va être beaucoup plus prudent. Au début, évidemment, il chante toutes les injustices de la société. Le racisme, la guerre du Vietnam, etc. Et par la suite, le combat qu'il va conserver et qu'il conservera jusqu'au bout, comme moi aussi, c'est la lutte contre le racisme. Mais par contre, il va prendre une position de recul très importante au moment du retour des Américains du Vietnam, par rapport aux boat people, par rapport à l'attitude des gens qui insultent les Marines qui reviennent du Vietnam avec une jambe en moins, etc. Il y a tout un mouvement de pacifistes idéologiques que Dylan va décevoir. Parce que ces gens-là, et aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui sortent des concerts de Dylan en disant « Dylan, c'est fini, quoi, je comprends plus, parce qu'il massacre ses chansons, il les déstructure, etc. » Dylan n'a jamais cessé d'être Dylan, c'est-à-dire honnête avec lui-même, pionnier, avant-gardiste. Et il déteste la commercialisation répétitive dans laquelle presque tous les artistes tombent quand ils ont découvert une source de revenus importante. Il a évolué, sachant que dans l'évolution, la plupart du temps, on déçoit. Parce que la passion que les gens ont pour les artistes est souvent liée à la nostalgie de leurs 20 ans. Là, aujourd'hui, vous avez les Stones, par exemple, qui réussissent à faire des tournées mondiales, que moi, personnellement, je n'apprécie pas parce que j'ai été les voir, moi, au Grand Stade de France, et il n'y a aucune évolution, quoi. Vous allez voir Dylan, là, je l'ai vu récemment, et vous voyez le chanteur d'avant-garde de 2009, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Il est devant tout le monde. Il est devant tous les mouvements punk, sont des clowns à côté de lui, quoi. Non, donc Dylan est un type qui a fait le contraire du petit Pousset. Petit Pousset, pour retrouver son chemin, a semé des cailloux blancs pour pouvoir revenir en arrière. Et Dylan, il efface les traces derrière lui pour qu'on puisse pas le suivre. Parce qu'il sait que la passion que certains publics peuvent porter aux artistes peut être totalement destructif, quoi.
Oh Fontaine, on baisse la tête quand les cloches sonnent. Le soleil ne brille pour personne, n'allez jamais à Oh Fontaine. J'aurais bien fait de rester chez lui. Oh, je t'entends une boîte de nuit. On ne chante pas sur le trottoir. Être noir, c'est pas permis. Que pensez-vous de ça, les amis? Dieu du ciel, c'est pas la peine de traîner à Oxfordham. Oxfordham, ta mélodie chante le blues à l'infini. De pauvres gosses se sont fait buter. Là, les flics devraient enquêter. Jamais à Oxfordham. Non, jamais à Oxfordham.
C'est Hugo Frey sur Route 66, Radio RDL.
Puisse Dieu aimer, te protéger, puisse Dieu exaucer tes souhaits, puisses-tu toujours donner aux autres et les autres te donner. Puisses-tu bâtir cette échelle aux étoiles, gravir toutes les marches du ciel, puisses-tu rester. Je ne jamais. J'adore toujours. Je ne jamais. Puisse-tu vivre. Je ne jamais. En vertu et aux heures de vérité, puisses-tu mettre ton âme à nu aux lumières de nos clartés.
Puisses-tu être l'homme courageux, toujours loyal, toujours droit, puisses-tu rester.
Je n'a jamais. Puisses-tu résister aux ambitions quand les grands vents tourneront.
Puisse ton cœur battre l'hymne à la joie, ta chanson toujours chantée. Puisses-tu rester.
Je n'a jamais.
Peace to thee.
jamais.
...146 ans à eux deux, mais jeunes pour toujours. C'était Hugo Frey et Johnny Hallyday, extrait du nouvel album d'Hugo Frey, New Yorker, paru sur le label Mercury. Alors, durant cette interview, nous sommes passés successivement La Fille du Nord, Les Temps Changent et Cauchemar Psychomoteur, issu du premier opus dédié à Dylan et enregistré par Hugo Frey. C'était en 1965. L'album s'appelait Au Frey Chant Dylan et était paru sur le label Barclay. Par la suite, nous avons entendu Oxford Town, extrait de Au Frey Trans Dylan en 1995. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, un extrait de New Yorker, Jeune pour toujours, Hugo Frey et Johnny Hallyday. Je tenais encore une fois à remercier Hugo Frey pour son hospitalité, sa gentillesse, pour cet après-midi passé chez lui à Marne-la-Coquette. J'ai vraiment passé un très très bon moment, très émouvant et très intéressant. Je tenais également à remercier deux personnes qui m'ont permis de rentrer en contact avec lui, à savoir Jean-Yves Billet et surtout son assistante Monique Monet. Merci à tous les trois en fait pour m'avoir donné l'opportunité de vivre de tels instants. Puisqu'on se passait un morceau avec un titre de Johnny Hallyday, je voulais en profiter pour faire un peu de pub à un livre qui va sortir dans les jours qui viennent, écrit par un ami qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Jean-François Chenu. L'ouvrage s'appellera Le Dernier des Géants et vous permettra de vous présenter cet artiste sous un angle complètement différent. Voilà, donc je lui avais promis de faire un peu de pub. Voilà qui est fait. On continue la pub avec des concerts à venir et justement on revient à lui, Hugo Frey, qui sera en concert les 6 et 7 novembre au Grand Rex à Paris. Si vous avez l'occasion de passer par là, il y présentera l'album New Yorker en long, en large, en travers et avec certainement quelques invités à la clé sur scène à ses côtés. Autre concert à venir, mais cette fois-ci dans la région, là aussi j'y tiens très particulièrement parce que c'est aussi un très bon ami à moi, c'est monsieur Fred Chapelier, le meilleur chanteur guitariste de blues rock français actuellement. Il sera donc les 3 et 4 octobre au Cafcons d'Ensisheim. Et puis pour ses fans, sachez que Fred Chapelier va être embauché par un certain Jacques Dutronc puisqu'il sera son guitariste sur la prochaine tournée de Dutronc qui débutera en début d'année 2010. Le moment est venu de conclure l'émission, mais je vous rappelle que nous vous retrouverons la semaine prochaine sur le 103.5 FM avec la deuxième partie de l'interview d'Hugo Frey consacrée à la sortie de son album. Mais auparavant, on se quitte en beauté avec une nouveauté, un groupe venu tout droit de Memphis, Tennessee, Victor Wainwright and the Wild Roots, qui sortent un album qui s'appelle Bill Street to the Bayou. Et le titre que je vous en propose d'écouter en extrait s'appelle Blues in the Rain. Et oui, le blues, on peut l'avoir sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, mais qu'il est mauvais parfois d'avoir le blues. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et à très bientôt sur le 103.5 FM. Salut.
From the east, a cruel dark cloud seeking release. I can hear the thunder beckon me. Yes. Blue skies turn a dismal gray. A savage storm is on the way. By my own misery, stranded in the belly of the beast, my salvation is just out of reach. In every man's life falls a little rain, each tear that I shed somehow eases the pain. It's my cross to bear. There's no one else to blame. It's this sad, broken man will never be the same. Gonna hide my shame, cry my blues in the rain. Cover me,
wash away the stain of suffering. Conceal my grief, let no one see. There's a great empty hole in my heart. Ever since my life fell apart, comfort me in your gentle shower. Renew my soul with your healing power. Give me hope in my darkest hour. And every man's life falls a little rain. It's tear that I shed somehow eases the pain. Yes, my cross to bear, no one else to blame. This sad, broken man never be the same. Gonna hide my shame, cry my blues in the rain. Cry. Now listen, I've been accused of walking around with my head in the clouds. I must confess it's true. I've been accused of being a little too proud. I feel so helpless. I want to cry. My blue.